processus électoral en RDC, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la troisième ère opérationnelle s'est officiellement clôturée le 11 avril dernier. Cependant, la CENI a accordé quelques jours de plus à tous les requérants qui détiennent des jetons. Pendant ce temps, quatre leaders de l'opposition, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Délice Sanga et Augustin Matata, ont exigé l'audit externe de l'opération d'enrôlement des électeurs en cours. Ils ont fait cette déclaration au cours d'une réunion le vendredi 14 avril à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Ces leaders estiment que cet audit doit être organisé en vue de doter le pays d'un fichier électoral fiable, intègre et reflétant la réalité démographique de chaque circonscription électorale, cela en présence des observateurs nationaux et internationaux pendant tout le processus électoral. De leur côté, les notables des territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi, dans la province du Nord Kivu, réunis le 13 avril à Goma, ont recommandé à la CENI et au gouvernement d'organiser l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans leur entité affectée par la guerre. D'après eux, on ne peut pas avancer avec le processus d'enrôlement sans qu'on ne puisse pas prendre en compte les trois territoires et une partie du territoire de Nyiragongo. Ça rendrait illégitime ceux qui seront élus à l'issue des élections sans ces territoires. Quel bilan dresser de l'opération d'enrôlement 4 mois après son lancement? Nous en parlons ce soir avec Joseph Senda, directeur des opérations à la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Joseph Senda, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Jean-Baptiste Mwindo Kasekwa, député national élu de Goma au Nord Kivu et secrétaire général adjoint de l'ECID, parti membre de la coalition Lamouka. Il est membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Jean-Baptiste Mwindo Kasekwa, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et Luc Loutala, il est analyste politique et électoral. Il est chargé de communication de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections, Simon Sen en sigle. Luc Loutala, bonsoir.
Bonsoir, madame.
À Goma, au Nord Kivu, vous nous suivez sous la 95.5. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net ou encore sur Canal+, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiocapi.net.
Il n'y a pas de province du Nord Kivu sans les territoires de Rutshuru, Masisi et une partie de Nyiragongo. La CENI doit tout faire pour organiser l'enrôlement à l'intérieur de ces trois territoires. Cette recommandation à la CENI au gouvernement congolais et des notabilités de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi, jeudi dernier à Goma. Ces notables se sont réunis pour réfléchir sur la situation sécuritaire, humanitaire et économique de ces territoires qui traversent une situation d'insécurité avec toutes ses conséquences depuis environ 6 mois maintenant. Il déclare qu'on ne peut pas prétendre avancer dans le processus d'enrôlement tant que les trois territoires ne soient pas pris en compte. Suivez Hop Sabini, notable de Rutshuru, au micro de Denise Lukeso.
Nous pensons qu'il n'y a pas la province Nord Kivu sans Masisi, sans Rutshuru, sans une partie de Nyiragongo. Nous pensons qu'il n'y a pas la République sans la province Nord Kivu. Et que donc, on ne peut pas prétendre avancer avec le procès d'enrôlement ou les arrêter, tant qu'on ne sait pas prendre en compte les territoires de Rutshuru, les territoires de Masisi et une partie de Nyiragongo. Sinon, ça rendrait illégitime les autorités qui seraient ici des élections organisées sans ces territoires. Mais également, ces territoires ont aussi besoin et droit d'avoir ces représentants. Imaginez quand on entre d'enrôler les gens au nom de Rutshuru, au nom de Masisi, au nom de Nyiragongo, alors que les populations déplacées représenteraient 10 ou 20%, c'est que les 80% qui resteraient sans être enrôlés remettraient en cause les représentants ici de 10 ou 20%.
Joseph Senda, vous êtes directeur des opérations à la Commission électorale nationale indépendante. Vous confirmez d'abord que l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la troisième ère opérationnelle s'est officiellement clôturée le 11 avril dernier.
Merci beaucoup, madame, pour la question. Je confirme effectivement que nous avons clôturé définitivement l'opération de révision du fichier électoral le 11 avril dernier par la troisième ère opérationnelle. Nous sommes occupés à autre chose pour ce qui est de la révision du fichier électoral. C'est une étape franchie. Donc je confirme que nous avons clôturé 11 avril 2023.
Et donc on peut dire sur toute l'étendue de la RDC, il n'y aura plus d'opération d'enrôlement, d'identification et d'enrôlement des électeurs. C'est fini.
Nous avons totalement clôturé, c'est fini. On ne peut plus revenir sur ça. C'est totalement clôturé.
Qu'en est-il des requérants qui gardent encore leur jeton? Parce que on a reçu des coups de fil, hein, des auditeurs qui nous ont appelés depuis Goma et Bounia pour se plaindre du fait que malgré les jetons qu'ils détiennent, on leur interdit l'accès au centre d'enrôlement.
Je ne pense pas qu'il en soit ainsi parce que l'instruction donnée était que l'on remette le jeton à tout celui qui aura été présent à la clôture du CI le soir. Donc si les compatriotes dont il est question ont été sur les lieux au moment de la clôture, ils ont certainement reçu un jeton. Et la deuxième instruction était qu'on devrait forcément recevoir tout celui qui avait un jeton. Et si par malheur, un jour donné, quelqu'un ne s'est pas présenté et qu'on a épuisé ce qui était là, il y a de fortes chances qu'on clôture et que certaines personnes détiennent encore des jetons pour n'avoir pas été sur les lieux au moment où on procédait à l'enrôlement de ce qui détenait les jetons. Dans tout cas, je ne pense pas qu'on ait refusé à quelqu'un qui détiendrait un jeton d'accéder au centre d'inscription pour obtenir son enrôlement.
Combien d'électeurs ont été enrôlés pour la troisième ère opérationnelle?
Je n'ai pas les données avec moi, mais comme nous sommes en train de centraliser les choses, ça va évoluer. Ce que nous disions déjà au départ, déjà quand nous avions commencé, d'aucuns souhaitaient avoir le niveau d'évolution et la réponse était la même. Il est difficile de vous donner, d'autant plus que les statistiques remontent. Donc je ne peux pas vous dire à ce jour on est à combien. Je pourrais vous dire on a reçu 80%, mais certains croiraient que c'est 80% de réaliser, alors que les statistiques sont en train de monter et peuvent dépasser les 95% par exemple, ou même dépasser les 100%. Donc je crois qu'il faut vraiment faire attention à ça. C'est pour ça qu'on se réserve beaucoup de donner les données statistiques, parce qu'elles sont dynamiques.
Mais la CENI va quand même communiquer lorsqu'elle aura rassemblé.
Oui, certainement. Quand nous aurons rassemblé toutes les données, aussi bien du monitoring que les données dans les machines, nous allons devoir communiquer officiellement les statistiques parce que, après tout, il nous faut présenter la répartition des sièges à l'Assemblée nationale. Et là, pour chaque circonscription, on donne le nombre d'électeurs et on donne le nombre de sièges obtenus à partir de ce nombre d'électeurs enrôlés. Donc ça, c'est une obligation légale.
Vous avez suivi en début d'émission Joseph Senda, un des notables hein, de territoires en proie à l'insécurité, notamment Rutshuru, Nyiragongo et Masisi, qui demandent à la CENI d'enrôler hein, les électeurs dans leurs entités affectées actuellement par la guerre.
Bon, je voudrais bien porter à la connaissance de ses compatriotes qu'il existe un plan opérationnel de sécurisation du processus électoral. Et comme nous le savons tous, c'est de la compétence de la République, de la compétence du gouvernement, principalement du ministère de l'Intérieur, que revient la charge de sécuriser le processus électoral. La CENI va où on lui dit qu'elle peut aller. Si les autorités lui disent de ne pas aller à tel endroit parce qu'on n'est pas sûr d'assurer la sécurité, la CENI ne s'y rendra pas. N'allons pas loin, Kwamout est à côté, on n'est pas allé à Kwamout parce qu'on nous a dit qu'on ne pouvait pas aller à Kwamout. Comme vous le savez, nous avons arrêté à Maluku parce qu'on nous a dit que Maluku n'était pas sécurisé. Il en est de même de Nyiragongo, de Rutshuru ainsi que de Masisi. Quand nous avons commencé à préparer, d'ailleurs bien avant que nous n'ayons commencé la O3, nous avons été en pourparlers avec les autorités nationales, notamment le ministère de l'Intérieur, pour leur dire que nous allions annoncer amorcer le processus dans ces trois provinces. Pouvons-nous y aller? Ils nous ont dit de ne pas y aller parce qu'il n'y avait pas de sécurité. Donc nous faisons ce que le gouvernement nous dit de faire. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas enrôler les compatriotes de ces trois territoires, parce que, enfin, comme je l'ai dit, il n'y a pas de raison. Ils sont compatriotes comme tout le monde, mais il faut savoir que nous mettons tout le monde en péril. Nous mettons le personnel en péril, nous mettons les électeurs en péril, nous mettons le matériel en péril. Donc à ce moment-là, il faut bien réfléchir plus d'une fois avant de prendre un tel risque.
Ça veut dire qu'ils sont d'office exclus du processus électoral?
Non, en fait, ils ne sont pas morts. Ils sont en vie, ils ont été dans les sites d'hébergement et nous avons été les enrôlés dans les sites d'hébergement pour le
mais
compte de leur...
Tous n'étaient pas dans les sites d'hébergement?
La majorité, c'est dans les sites d'hébergement. Il y a une minorité qui est restée, mais comprenez que ce qu'on peut faire, vous ne savez pas y mettre le doigt. Vous dites, qui va sécuriser d'abord? Parce que évidemment, c'est la police. Vous y mettez quelle police? Vous tirez sur des gens, ils vont mourir. On va tuer les policiers parce que on les a amenés dans un territoire sous occupation. Il faut quand même avoir un minimum de cœur. Mais non, ceux qui sont restés et là où ils sont restés, bon, vous comprenez très bien que devant l'impossible, ni les ténures. Hein. On ne peut pas mettre en péril la vie des gens comme ça.
Ils estiment que ça rendrait illégitime ceux qui seront élus à l'issue des élections.
Bon, c'est leur déclaration politique. Ça relève de la compétence du politique, ça n'est pas de la CENI. C'est le politique qui déciderait. La CENI fait son travail au vu au-dessus de tout le monde. La CENI présente ses contraintes, ses difficultés, acquis de droit et attend des solutions et d'orientation. Maintenant, s'il y a des revendications à caractère politique, à ce que je sache, la seule autorité de la CENI, c'est l'Assemblée nationale. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faudra peut-être présenter le problème.
Joseph Senda, il y a des leaders de l'opposition qui exigent l'audit interne des opérations d'enrôlement des électeurs qui viennent de se clôturer. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, d'abord, au nom de la démocratie, on ne peut pas empêcher un compatriote de penser ce qu'il pense, de mettre son point de vue sur les rendements du processus. Mais à ce que je sache, déjà la CENI elle-même, dans son calendrier, avait prévu un audit et elle se rend pour parler avec l'OIF pour le faire. Maintenant, si les politiques pensent qu'ils peuvent le faire dans ce sens-là, une fois encore, ils doivent savoir à quelle porte frapper pour que leurs désidératas obtiennent gain de cause. Mais pour ce qui est de la CENI, il y aura un audit selon son esprit, en recourant à un auditeur externe, éventuellement à l'OIF, pour qu'on vienne auditer le fichier. Mais si quelques compatriotes réunis au sein des partis d'opposition pensent autrement, c'est de leur droit, mais il faut savoir à qui s'adresser pour que cela puisse avoir un écho favorable.
Où en est-on avec le processus électoral actuellement?
Nous avons clôturé la révision du fichier électoral. Nous sommes en train de rassembler les données que nous appelons généralement les données statistiques, qui remontent par les monitoring, mais aussi les données soft qui sortent de machines, parce que c'est à partir de celles-ci que nous pourrons avoir notamment la génération du bureau de vote ou les listes électorales. Nous sommes en train de ramasser le matériel éparpillé à travers le pays. Vous savez que c'était près de 30 000 kits d'enrôlement sur le territoire national. Il faut les remonter au niveau des territoires pour qu'on extrait totalement les données qu'on contiendrait ces machines pour que nous soyons en mesure de bien nettoyer notre fichier. Au niveau de Kinshasa, les données qui tombent dans le serveur sont soumises à la centralisation, à la judication pour détecter les enrôlements irréguliers, notamment les enfants, notamment les doubles enrôlements, notamment les objets inanimés. On est en train d'élaguer tous ces déchets-là du fichier électoral parce qu'au finish, il faut que nous sommes en mesure de dire un électeur une voix et que le fichier électoral soit le fichier électoral des Congolais éligibles à l'enrôlement. C'est le travail qui s'est fait en ce moment au niveau du siège ici à Kinshasa.
Jean-Baptiste Mundoka Sekwa, député national élu de Goma au Nord Kivu et secrétaire général adjoint de l'ECID, parti membre de la coalition Lamuka. Vous êtes membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Quel bilan vous dressez de l'opération d'enrôlement 4 mois après son lancement?
Alors, d'entrée de jeu, je voudrais corriger quelque chose dans le propos de mon co-débatteur Joseph Senda. Lorsqu'il dit à propos de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, que la majorité des habitants de ces trois territoires se retrouvent dans les camps, eh bien, Joseph tient une affirmation totalement fausse. À la date du 20 mars, il est mieux informé que moi que le taux d'enrôlé par rapport au nombre d'électeurs attendus à Masisi était seulement de 2% et que jusqu'à ce jour, Masisi n'a qu'un seul centre opérationnel, le centre de Boulengo à l'ouest de Goma, et que tous les kits sont entreposés par la CENI à Kisangani. À cette date-là, le taux d'enrôlé à Rutshuru était de 4%. Comment peut-il affirmer que c'est la majorité des populations qui sont dans le cas alors qu'il a les données réelles? Il en est de même de Beni, notamment la chefferie de Bassou, où depuis le 8 mars, le jour de la célébration de la journée mondiale des droits de la femme, une série de massacres a commencé et des kits ont été amenés par la CENI jusque dans les entrepôts de la CENI à ville de Beni jusqu'à ce jour. Donc, je pense qu'il faut de l'honnêteté dans la gestion de l'information autour du processus d'enrôlement. Alors, pour revenir à votre question, eh bien, l'enrôlement a été fait par défi. En dépit de toutes les alertes lancées par la commission de Lamuka, Lamuka a publié plusieurs rapports de monitoring. Personnellement, pour ce qui est de l'ère opérationnelle 3, j'ai publié un document et j'ai fait des communications à Goma, à Butembo, à Beni. J'ai rencontré les autorités de la CENI et j'ai même déposé une question d'actualité à l'Assemblée nationale pour que le président de la CENI vienne répondre à un certain nombre des préoccupations parce que il était clair que à la date du 11 avril, par exemple, pour la ville de Goma, nous aurions plus de 160 000 requérants qui n'auront pas leur carte, qui devaient se retrouver devant 32 centres, et c'est ce qui est arrivé à cette date-là. C'était comme devant des stades, dans un stade de football. La CENI a été incapable de distribuer des jetons. Elle s'est limitée pendant 2 jours à distribuer 200-250 jetons par jour de par centre, ce qui nous a donné un total de 16 000 jetons distribués, soit seulement les 1/10. Conséquence, eh bien, le monnayage des jetons a pris une ampleur inexplicable. Nous avons vu des gens circuler avec des jetons dans des quartiers pour les vendre à 5-10 $. Le mouvement citoyen a lancé des alertes.
Pourquoi vous n'avez pas appelé la CENI pour dénoncer cela? Parce que la CENI avait donné un numéro vert sous lequel les gens pouvaient appeler pour dénoncer ce genre de comportement des agents commis pour l'enrôlement des électeurs.
La CENI a été régulièrement saisie. Je vous rappelle, par exemple, que le mouvement citoyen à Goma a publié 2 communiqués. Personnellement, j'ai été au bureau de la CENI et j'ai déposé parce que, en dépit de toutes les alertes, la CENI a organisé des opérations par défi. J'estimais que, en vertu de l'article 42 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI qui dispose que le Parlement doit exercer son pouvoir de contrôle sur la gestion de la CENI, conformément à l'article 100 de la Constitution. J'estimais qu'il fallait que l'Assemblée exerce son pouvoir pour tirer les oreilles des dirigeants de la CENI. Malheureusement, il y a une complicité au niveau du bureau de l'Assemblée qui a bloqué l'initiative jusqu'à ce jour. Donc, dans l'ensemble des provinces de la zone opérationnelle, la CENI prétend avoir clôturé. Bon, elle n'a pas le courage de le dire. J'ai constaté qu'elle a finalement levé la mesure d'exigence des jetons et des personnes qui n'ont pas obtenu les jetons parce qu'il n'était pas possible d'octroyer des jetons à des milliers de gens en un seul jour. La CENI autorise que ces gens-là viennent, ce qui est une bonne chose. Mais nous voulons que la CENI ne s'arrête pas à la date de la fin de ce qu'elle a appelé la période des contagieux, parce que au regard du nombre de kits très très réduit que la CENI a affecté par exemple au Nord Kivu, à Goma principalement, pour avoir le nombre d'électeurs attendus, il faudrait que les opérations se prolongent jusqu'au 16 mai. À Butembo, c'est pareil, il faudrait au moins 90 jours. Or, à ce jour, la CENI n'aura donné que 55 jours dans les provinces de la zone opérationnelle 3, alors que ces opérations se sont étalées jusqu'à plus de 75 jours dans les provinces de la zone opérationnelle 1. Donc, nous encourageons la CENI à laisser les requérants venir et que la CENI communique pour demander, dire aux requérants que les centres restent ouverts en dépit du fait que tous les requérants n'ont pas eu la possibilité d'obtenir les jetons à la date du 11 avril telle qu'annoncée par la CENI.
Alors, vous demandez que les centres restent ouverts jusqu'au 16 mai. Est-ce que ça n'aura pas une incidence sur le calendrier électoral?
Non. Dans ce contexte, il faudrait que rapidement la CENI saisisse l'Assemblée nationale pour demander que la loi portant répartition des sièges soit débattue en session extraordinaire au mois de juillet, et cela ne va pas empiéter sur le calendrier. Mais au-delà de ça, la Mouka, Ensemble, Avol et LGD de Matata, nous avons fait une déclaration à Lubumbashi pour exiger un audit sincère, sans complaisance, de manière à nous rassurer que le fichier électoral réponde au poids démographique des provinces.
Luc Noutala, analyste politique électorale, vous êtes chargé de communication de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections. Simon Sel, en sigle, quelle évaluation faites-vous de l'opération Normand 4 mois après son lancement?
Merci beaucoup, Madame Kelly, pour l'invitation pour cette émission. Merci aussi aux co-débatteurs. Je pense que cette émission se place dans les perspectives de l'évaluation de la RFE, ça veut dire l'opération de révision du fichier électoral. Et donc, il faut, je veux réfléchir, je vais placer toute mon analyse dans les perspectives d'une évaluation. Alors, pour qu'on évalue ce processus, ça veut dire, on doit déjà se donner des références, hein, des choses sur lesquelles on se refaire pour voir si le processus a bien évolué ou n'a pas bien évolué. C'est d'abord sur le plan de planification, des outils de planification, il faut voir qu'il y a le calendrier électoral. Ensuite, il va falloir regarder s'il y a les principes directeurs qui gèrent la gestion d'une révision du fichier électoral de l'opération. Et parmi ces principes directeurs, on va essayer de voir les aspects de légalité, on va essayer de voir les aspects d'inclusion, hein, quelques principes directeurs tels que la participation qui posent problème. Mais je pense que pour mieux comprendre aussi le déroulement de ce processus, il est très important d'essayer de voir les capacités opérationnelles de la CENI et les capacités logistiques. C'est un processus assez costaud, assez atypique, où la CENI a dû faire face à des défis logistiques, à des défis opérationnels assez monumentaux. Et il va être question de voir est-ce que la CENI a été capable d'être suffisamment à l'écoute. Est-ce qu'au fil de la gestion des trois aires opérationnelles, la CENI a été capable d'améliorer sa performance. Et donc, le dernier point sera vraiment de voir les capacités managériales de la CENI. Est-ce que on sait bien que dès le début, hein, il y a eu tous les problèmes autour de la mise en place de l'équipe de la CENI, de la plénière, et qu'il y a eu brisement du consensus. Et un des gros défis de la CENI en gérant la révision du fichier électoral était sa capacité en fait de ramener les différentes parties prenantes au consensus à travers cette opération. Et donc, pour partir, j'aimerais rappeler que on est là dans une sorte de processus électoral trap qui fait face à la fois à la contrainte constitutionnelle. Il faut vraiment que les choses se passent dans le délai constitutionnel. Et là, on a vu le calendrier électoral de la CENI qui a été publié et qui a des dates suffisamment contraignantes. Et que jusque-là, si on regarde le calendrier de la CENI a fait l'effort de tenir le calendrier, les dates du calendrier électoral, évidemment dans le déroulement des aires opérationnelles 1, 2 et 3. Et donc, en même temps, on va voir, et ça revient avec toute cette déclaration de la Mouka et toute cette déclaration des chefs coutumiers de certains territoires, Roubaix ou Nyiragongo. C'est également la capacité de la CENI à communiquer, à inclure les parties prenantes, à faire que les parties prenantes comprennent ce que la CENI est en train de faire et les difficultés à faire que le processus ne soit pas le processus de la CENI. Parce que ça, c'est une difficulté de les départ. Et donc, on va voir que maintenant, on est à la fin de cette opération et qu'on se rend compte qu'on a les mêmes difficultés, qu'il y a des parties prenantes qui se disent « Ah, la CENI s'est appropriée, elle a fait son opération. » Donc, ça reste quand même un défi que la CENI n'a pas réussi à relever, à la fois dans sa communication et à la fois dans sa façon d'inclure et de faire participer les parties prenantes, ce qui est un principe directeur. J'aimerais juste dire, par exemple, je prends l'exemple de la belle réponse que le directeur Jean-Baptiste Senga a donnée tout à l'heure. Il est tout à fait évident que la CENI fait face à des contraintes qui ne relèvent pas d'elle, notamment sur ces territoires où les gens n'ont pas été enrôlés. Mais la CENI, par exemple, ne pourrait pas donner la réponse de dire « Ben, ceux qui ont été enrôlés, nous, on ne sait pas, ce n'est pas notre affaire, mais la CENI, la sécurité, c'est pas notre affaire. » Mais non, mais ça, c'est une question qui devrait faire vraiment l'objet d'un dialogue, d'une concertation avec les parties prenantes pour dire, voilà, il y a une partie des concitoyens qui mérite de voter, qui mérite d'être enrôlés. Et sur ce point, les gens ont tout à fait raison de le soulever. Qu'est-ce que nous faisons? Et là, il y a plusieurs options qui peuvent être prises et que la CENI peut proposer parce que c'est la CENI qui gère ce processus. On a retrouvé les outils stratégiques de la gestion des opérations, notamment l'équipe d'enregistrement des électeurs, entre des mains des particuliers. Et un fait suffisamment gravissime. Et donc, on revient, on n'a jamais su à ce jour, la CENI n'a jamais réussi à véritablement communiquer. Ce processus n'est crédible que si je implique les autres parties prenantes, si on entend le co-débatteur de l'opposition, et si on entend la CENI, on a vraiment encore l'impression, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, vous l'aurez observé, les téléspectateurs aussi, on a un peu l'impression d'un dialogue des sourds entre les parties prenantes, entre la CENI, qui a vraiment son dialogue, les parties prenantes qui ont vraiment leur dialogue. Et donc, finalement, on est là sur un signalement totalement dangereux dans la gestion du processus électoral.
Est-ce que cela pousserait à dire que le processus n'est pas crédible parce que on est devant un dialogue de sourds, comme vous venez de le dire?
On est sur un processus hautement dangereux. Maintenant, la CENI a encore la possibilité de le crédibiliser. Notamment, il est prévu, et ça, la CENI et les parties prenantes, notamment l'opposition, parlent le même langage sur l'audit du fichier électoral. Et donc, la CENI a prévu l'audit, les parties prenantes réclament l'audit. Et là, la question, elle est tout à fait simple. Dans quelle mesure est-ce que la CENI, qui aurait totalement confiance dans le travail qu'elle a fait, qui se dirait, moi, CENI, je pense que j'ai fait le travail selon les règles, et donc, vous, partie prenante, vous voulez absolument vous assurer que j'ai fait le travail normalement? Ok. Associez les parties prenantes à l'opération de l'audit. Ce serait un autre exemple de faire.
Merci, Luc Loutalan. On va prendre à présent les questions des auditeurs. Ces auditeurs qui sont très, très nombreux à appeler sur notre standard pour donner leur point de vue. On va se rendre à Bounia, dans la province de l'Ituri, pour écouter cet auditeur. Ça sera pour vous, Joseph Senda.
C'est David Soumaïl Moussafiri depuis la ville de Bounia, dans la province de l'Ituri. Je salue la décision de la CENI de pouvoir accorder encore quelques jours de plus à tous les requérants qui détiennent des jetons, même si cela ne pourra pas résoudre efficacement les problèmes des requérants. D'ailleurs, je trouve la décision de l'opposition juste, parce qu'elle permettra de clarifier un certain nombre de choses. Par exemple, moi-même, je me pose au quotidien la question de savoir comment la CENI va-t-elle justifier le déroulement du processus d'enrôlement en des milieux d'insécurité florissante? Comme chez nous, en Ituri, il y a certaines régions où l'enrôlement n'a commencé que quelques jours avant la fermeture. Et dans certains coins, les gens ne se sont pas enrôlés carrément à cause de l'insécurité. Il en va de même dans certaines régions de la troisième ère opérationnelle. Comment la CENI va justifier cela et comment va-t-elle décider s'il faut aller aux élections avec ou sans les compatriotes qui ne se sont pas enrôlés, et s'il faudra les récupérer comme le souhaitent bien les élus du Nord, que sera-t-il du respect du délai constitutionnel ou du calendrier électoral? Merci.
Joseph Senda.
Merci beaucoup pour la question, elle est très très intéressante. Mais avant que je n'arrive à répondre à la question, je voudrais apporter certaines précisions qui vont peut-être choquer certains co-débatteurs. Eh bien, moi, je suis technique. Et quand je suis technique, lorsque c'est la couleur bleue, je dis la couleur bleue, ce qui n'est pas le cas avec le politique. Là où c'est bleu, le politique a tendance à dire ce rouge. Donc, je ne saurais pas répondre aux déclarations que je trouve tronquées et biaisées qui viendraient de l'opposition. Je les prends comme telles. Moi, je dis ce que je dis parce qu'en fait, je fais un travail purement technique. J'ai bien dit que nous avons été enrôlés et déplacés dans les camps des déplacés internes. Je peux le vérifier. Alors, je reviens à ce que monsieur Luc a dit. C'est très fondé, mais je voudrais bien le rappeler que la CENI a tenu beaucoup de cas de concertation. Ça, c'est un, aussi bien avec les partis politiques qu'avec la société civile. C'est vérifiable parce qu'en fait, les annales peuvent bien le montrer. La CENI a accrédité des observateurs, notamment la CENCO. C'est la mission qui a obtenu le plus grand nombre d'observateurs. Nous avons accrédité peut-être plus de 500 observateurs qui ont travaillé à travers le pays. Qui nous ont déposé leur rapport. Et ça, nous les saluons vraiment avec beaucoup de considération. Ils sont venus déposer, ils nous ont dit, ils n'ont pas mâché les mots, là où ça n'allait pas, ils nous ont dit, et nous avions dit, écoutez, là, il y a tel problème. Nous venons de recevoir encore, juste sur ma table, une mission d'observation, société civile qui vient de déposer aussi leur rapport. Donc il y a une collaboration entre la CENI et les parties prenantes qui veulent bien marcher avec elles. Maintenant, là où je voudrais bien que les uns et les autres comprennent, c'est que nous avons une Assemblée nationale. C'est elle qui doit donner les orientations. Ce n'est pas parce qu'un groupe de politiciens a fait une déclaration que forcément la CENI doit arrêter la machine parce qu'il y a une composante de la société nationale ou de la société congolaise qui estime que les choses ne devront pas aller dans ce sens-là. Elle n'a qu'à faire son plaidoyer, son lobbying auprès de l'Assemblée nationale. C'est elle qui peut donner des injonctions à la CENI pour qu'on arrête la machine. La CENI, elle a l'avance avec les moyens mis à la disposition, qu'on met à sa disposition par la République. Si l'insécurité est là, la CENI a posé le problème au gouvernement, au ministère de l'Intérieur. Il y a eu plusieurs réunions avec les experts du ministère de l'Intérieur en ce qui concerne la sécurité. La CENI a eu des séances de travail avec les caucus de députés et sénateurs. Nous continuons à recevoir les délégués de la O3, principalement du Nord Kivu. Au moins 3 fois, nous avons reçu dans nos installations les députés du Nord Kivu qui ont posé les mêmes problèmes et nous leur avions dit la même chose. Nous avons été obligés d'arrêter l'enrôlement à Masisi parce qu'on a commencé à tirer. On était obligés d'arrêter. Donc nous étions sur terrain, nous avions commencé, on a arrêté. Et la solution était d'aller vers les camps des déplacés. Je reviens à la question qui m'a été posée. Eh bien, nous l'avons dit et nous le répétons, c'est la police nationale qui assure la sécurité de tout le monde. Ce n'est pas la CENI, c'est la police nationale qui assure la sécurité. Nous allons là où nous pouvons aller, là où la police nous dit « allez à tel endroit », nous y allons. Si elle nous dit « n'y allez pas », on n'y va pas. Donc, il faut que l'on comprenne très bien que devant l'impossible, ni n'est tenu.
Donc, du coup, toutes ces personnes qui n'ont pas eu leur carte d'électeur ou qui n'ont pas eu la chance de se faire enrôler n'auront pas leur carte d'identité parce que c'est conditionné par la carte d'électeur.
Non, d'abord, ça est notre problème que vous soulevez. Nous avions dit que nous sommes allés vers les sites des déplacés internes.
Oui, mais
nous
c'est 2%, allés. Comme l'a dit le député Cassé, 2% d'enrôlés, 4% pour Routourou.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas me perdre dans les déclarations d'un politique. Je m'excuse beaucoup. Le politique, il voit rouge là où c'est bleu, il voit jaune là où c'est jaune. C'est noir. Moi, je vous dis que nous avons été là-bas. C'est un problème qui avait été posé depuis longtemps. Les animateurs de CENI, au nord et au sud de Kivu, nous ont donné la liste. Ils nous ont présenté la liste des sites d'hébergement. On a déterminé les sites qui devaient aller là-bas. C'est eux qui nous disaient quel site, tel site reçoit les électeurs de tel coin. On n'a pas inventé ici à Kinshasa.
Jean-Baptiste Kasekwa, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Ilunga Bayamba Espérant Jardin depuis Kinshasa. Nous saluons les avancées significatives de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la troisième ère opérationnelle qui s'est clôturée avec succès conformément au calendrier après avoir enregistré les réactions et doutes quant au délai prévu dans chaque ère opérationnelle malgré les difficultés rencontrées. À cet effet, nous demandons aux acteurs politiques et sociaux de se préparer pour aller aux élections en nous évitant toute proposition ayant pour but de retarder le processus en cours, car chacun de nous a exigé la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Par ailleurs, comme à l'impossible n'est de tenir, il y a lieu de se référer à la jurisprudence de 2018 qu'il n'y aura pas retardement du processus parce qu'un ou deux coins du pays sont sous contrôle des rebelles.
Jean-Baptiste, c'est quoi?
Oui, je suis en désaccord avec le propos de l'auditeur lorsqu'il dit qu'il salue les avancées significatives. Mais l'ensemble des Congolais déplore plutôt les reculs réalisés par la CENI en 2022-2023 par rapport à 2017-2018. Déjà, la carte d'électeur de 2018 était plus solide. J'étais à Goma dans un centre, j'ai vu une maman faire couler les larmes en disant « Vous me remettez une carte qui s'efface au bout de 2 jours à contrepartie d'une carte que j'ai obtenue en 2018 et qui reste encore intacte. » Ne parlons pas de la photo qui est un portrait robot par rapport à la photo couleur. Plutôt que de se féliciter des avancées qui n'existent pas, il faut plutôt déplorer les reculs. À Goma aujourd'hui, au centre d'enrôlement La Concorde et dans d'autres centres, les requérants sont rentrés depuis 14 heures parce que les stock de cartes était épuisé. Donc la CENI ne sait même pas prévoir les nombres de cartes par rapport au nombre de jetons distribués. À Kirumba, c'est pareil. Avant-hier, il y a des centres qui ont fermé à 11h. J'ai suivi, on évoque des cas de force majeure. Non, il y a plutôt une volonté délibérée de décourager les électeurs, c'est ce qui s'est fait. La CENI doit faire un effort pour être réellement indépendante plutôt que de se comporter comme le Parlement debout d'une famille politique. Nous savons la volonté de la famille politique au pouvoir d'organiser un processus, d'obtenir un processus électoral tripatouillé. Ils se disent, ils sont même prêts à organiser les élections avec un taux de 20-30%, qu'importe que le territoire comme Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, Beni ou autre en Ituri ne soit pas associé, eh bien, nous n'allons pas les laisser faire.
Il y a un problème d'insécurité. Il y a un problème d'insécurité dans ce territoire.
Ceux-là qui sont en train de diriger, aussi bien à l'Assemblée nationale, dans les assemblées provinciales, que bien les exécutifs professionnels nationaux.
Jean-Baptiste Kasekwa, il y a un problème sérieux d'insécurité dans ces territoires. La CENI fait quoi en ce moment? La police vous dit non, on ne peut pas vous accompagner. Doit-elle s'entêter et aller dans ces territoires?
Bien, la CENI devrait, à mon avis, faire deux petites choses. La première, c'est d'adopter une démarche participative. Qu'est-ce qui a coûté à la CENI d'aller à Goma, d'écouter les parties prenantes, la société civile, de Masisi, de Rutshuru, de Nyiragongo, et de dire voici les difficultés, est-ce que nous pouvons écouter vos points de vue plutôt que de se contenter à écouter les points de vue? Nous qui sommes là, c'est vrai qu'aucun, vous les avez reçus, mais nous sommes pratiquement à la fin du mandat. Pourquoi ne pas élargir le processus pour éviter des suspicions? Moi, j'ai participé à une réunion ici avec des conseillers à la présidente de la République qui proposaient déjà que l'on n'organise pas l'enrôlement dans les Rutshuru et dans le Nord Kivu pour tirer prétexte de ne pas organiser les élections dans les délais. J'étais présent, j'ai dénoncé cela. Donc la CENI devait être ouverte et aller vers les autres. Deuxièmement, la CENI devrait proposer des mesures concrètes qui seront discutées à l'Assemblée nationale, parce que nous n'allons pas accepter que Beni a été frappée. Elle a perdu deux sièges en 2011, alors que les populations étaient victimes de massacres. Est-ce qu'aujourd'hui, on va encore accepter que Rutshuru perde sept sièges, six sièges, Beni a perdu trois, Djougou, Irumu, alors que nous sommes conscients du contexte de la guerre? Il faut que la CENI propose des mesures, des propositions concrètes regard des contraintes auxquelles elle a fait face. Dans les Rutshuru, par exemple, nous savions qu'il y avait des groupements entiers qui n'ont jamais été sous occupation du M23. À Masisi, c'est seulement deux groupements qui étaient sous occupation du M23, avec la chefferie de Machali et les Camerounais autour de Sake, mais tout le reste de Masisi était libre. Donc, la CENI doit se mettre au-dessus de la mêlée, plutôt que de se comporter comme des natures à accomplir un plan de fraude concocté par l'Union sacrée.
Luc Loutal, on va prendre très rapidement cette dernière réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Augustin Tendilongi, j'interviens de Bukavu de la province du sud Kivu. À mon humble avis, je pense que le bilan du déroulement, du processus d'enrôlement est très négatif et désolant. À ce sens que seul cet audit demandé par l'opposition, René Lubumbashi, pourrait bien clarifier la suite du processus électoral pour éviter toute contestation du résultat.
Réaction, Luc Loutala.
Madame Kelly, nous, en tant qu'analystes, on n'est pas de l'opposition, on n'est pas de la majorité, on n'est pas de la CENI. Le travail que nous essayons de faire, c'est de nous rendre compte, est-ce que le travail qui est fait par la CENI répond aux principes directeurs? Est-ce que ce travail consolide la démocratie? Est-ce que ce travail arrive à créer le consensus et à mobiliser toutes les parties prenantes pour s'engager dans le processus électoral? Alors, de ce point de vue-là, nous observons que, tel que l'opération a commencé, ça veut dire qu'il y avait une fracture de communication entre la CENI et les parties prenantes, c'est comme ça que l'opération finit. Il y avait une crise de conscience entre la CENI et les parties prenantes. C'est comme ça que l'opération, la RSC, est en train de finir. Il y a la même crise de confiance entre les parties prenantes. Il y a eu énormément des failles sur lesquelles la CENI pouvait corriger, mieux communiquer. Évidemment, la CENI a essayé de corriger certaines, mais quand on entend les parties prenantes, on a vraiment l'impression que beaucoup de failles, beaucoup de choses auraient pu être mieux faites. Alors, à l'occurrence, on arrive évidemment à des questions auxquelles chacun peut répondre. Est-ce que la CENI a réussi à créer le minimum de consensus? Parce que l'opération de révision du fichier électoral est l'opération la plus stratégique. Et il n'y a aucun processus électoral au monde qui a dit qu'il a réussi si on échoue l'opération de révision du fichier électoral qui crée l'électorat et donc qui crée, si vous voulez, le souverain primaire parce que de ça va découler la loi sur la répartition des sièges.
Alors, parce que vous avez parlé de cette crise entre la CENI et les parties prenantes, est-ce que la CENI a réussi à créer le minimum de consensus au regard de tout ce que nous observons, Luc Loutala? Ça sera votre conclusion?
Mais non, pas du tout. La CENI a peiné et je pense que la CENI devrait travailler à mieux définir son rôle. On a l'impression que la CENI n'a pas réussi à comprendre quel est le véritable rôle qu'elle devait jouer. Évidemment, j'admets qu'il y a le rôle technique. Mais la CENI n'est pas qu'un organe technique. La CENI est un organe d'accompagnement à la démocratie. Et donc, on a beaucoup de communicateurs de la CENI qui parlent techniquement, et ça, on peut comprendre. Par exemple, le directeur Jean-Baptiste, il doit défendre, c'est un technicien de haut niveau. Mais la CENI n'est pas qu'un organe, une boîte. La CENI n'est pas un robot technique. Et donc, il reste tout ce défi que la CENI doit vraiment prendre compte, considérer qu'elle est au cœur de la gestion de la consolidation de la démocratie et jouer ce rôle-là.
Merci Luc Loutala. Joseph Senda, directeur des opérations à la Commission électorale nationale indépendante. La CENI n'a pas réussi à créer le minimum de consensus. Nous sommes dans un processus dangereux. Réaction. Ce sont les propos de Luc Loutala.
Écoutez, par nature, moi je ne suis pas pessimiste. Hein. Donc je ne peux pas aller dans ce sens-là parce que je ne suis pas né pessimiste. Ce que je voudrais dire ici, c'est que la CENI se prépare à présenter à l'Assemblée nationale la répartition des sièges. Je crois que ça sera une occasion à ce que des orientations soient faites, des recommandations soient faites. L'Assemblée nationale est une institution officielle, de l'un plus importante que le rassemblement des parties prenantes qui se retrouvent les uns à Lubumbashi, les autres à Goma, les autres parties par là. Il ne peut pas se substituer à l'Assemblée nationale. Donc la CENI va aller vers ce qui est officiel, qui est l'Assemblée nationale. Ces différentes parties prenantes ont certainement des représentants au sein de l'Assemblée nationale. Ils vont en profiter pour émettre leurs avis, qui pourront être couchés en recommandations, et présenter à la CENI à ce moment-là de manière tout à fait officielle, de manière tout à fait normale. La CENI pourrait éventuellement revoir elle pourra revoir sur base des recommandations qui lui seront faites. Nous irons à l'Assemblée nationale avec la répartition des sièges sur base des statistiques, des enrôlés. Nous présenterons un de ces quatre matins.
Merci.
Avant la fin de la session en cours, nous serons à l'Assemblée nationale. D'ici là, nous allons devoir passer les commandes de ce qui concerne les scrutins. Nous sommes prêts pour amorcer la passation de marché afin d'obtenir le nécessaire pour les scrutins. Nous nous préparons à tout ce qui concerne la tenue des scrutins. Mais avant les scrutins, nous avons la cartographie des bureaux de vote qu'il faut apprêter, qu'il faudra présenter, publier, parce que la loi nous le recommande. Nous avons à ouvrir le BRTC une fois que la loi portant répartition des sièges sera adoptée, pour que les candidats éventuels viennent pour déposer leur candidature et que nous puissions les recevoir et traiter en vue justement de scrutin. Donc, à notre niveau, la machine évolue normalement, mais comme je l'ai dit, nous irons vers l'Assemblée nationale, nous allons présenter la répartition de sièges, et c'est à ce moment-là que on pourra présenter certains problèmes et nous allons les examiner sur base des recommandations qui viendront de l'Assemblée nationale.
Merci Joseph Senda, Jean-Baptiste Kasekwa, député national, élu de Goma au Nord Kivu et secrétaire général adjoint de l'ECID. Votre conclusion après avoir suivi les propos de Joseph Senda.
La CENI devrait adopter une attitude humble parce que à la suite du chaos de l'organisation de l'enrôlement, nous avons perdu un père de trois enfants, monsieur Michel Katembo Savali, à Kasindi, tué devant le centre Kamirongo. Nous avons perdu l'étudiant de l'ISE Goma, Dieudonné Baganda Banga. Mais au-delà de tout ce que nous déplorons, la Mouka et toutes les autres familles politiques réunies à Lubumbashi ont projeté une marche le 13 mai, parce que nous ne pouvons pas accepter que la CENI continue à organiser le processus comme une propriété privée à la solde de l'Union sacrée. Nous voulons que la CENI publie l'appel d'offres de la commande des kits électoraux pour nous rassurer de la conformité de ce qui a été commandé par rapport aux kits qui sont utilisés. Nous voulons que la CENI nous présente des éléments. Comment sommes-nous passés aux cartes, aux photos, à robots, à portrait robot, alors que les coûts d'impression des commandes de ces cartes-là auraient augmenté de plus de 33 millions de dollars par rapport à 2017-2018.
Merci.
Nous voulons que la CENI organise une rencontre entre toutes les parties prenantes, mais également, nous n'accepterons pas d'aller au processus tant que le bureau de la CENI n'aura pas été recomposé, de même que la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, il faut impérativement
merci,
un processus.
Merci, Jean-Baptiste.
Nous n'accepterons pas des élections bâclées au 20 décembre 2020.
Merci, Jean-Baptiste Kasekwa, dialogue entre Congolais. C'est fini. Merci à Guy Maté, Dona Madimba qui m'ont aidé à préparer ce magazine. Jean-Claude Thiel a été à la mise en onde. Présentation et coordination, Kéline Couté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.